dans Une tempête, Aimé Césaire utilise cette évocation de la pièce de Shakespeare pour désigner toute l'histoire des conquêtes de ces Européens blancs partis sur des terres lointaines pour y trouver richesses et pouvoir. À travers les yeux des Européens, ces barbares ne peuvent être autrement que rudes, laids, cannibales. La force du texte d'Aimé Césaire est de renverser la perspective colonialiste et de montrer que le personnage barbare Caliban n'est pas plus cannibale que celui qui est venu le coloniser. Césaire n'est toutefois pas le premier à représenter les Européens comme des cannibales. Le peintre romantique Théodore Géricault a eu le courage de peindre le radeau de la Méduse et d'évoquer la tragédie de la frégate française échouée en 1816 près des côtes de la Maurétanie, lors de laquelle les survivants ont été contraints à manger leur prochain, ce qu'on appellera le cannibalisme de survie. On le sait moins, mais les Romains partis à la conquête du monde ont eux aussi rencontré des peuples européens pratiquant l'anthropophagie rituelle ou de survie. Sans être colonialistes dans le sens moderne, les Romains ont aussi caricaturé l'autre, le barbare qui ignorait leur culture de la mer, de la ville, de la guerre rangée. Mais tout en pratiquant ce jeu facile du dénigrement de l'ennemi, les Romains n'ignoraient pas moins que la barbarie existait au cœur même de leur pouvoir, au sommet de leur empire. L'empereur lui-même, qui ne reconnaissait pas les mérites des Romains dévoués aux intérêts, certes expansionnistes de leur patrie, pouvait se révéler être un barbare criminel, comme les cannibales des marges du monde. C'est en cela que les textes antiques nous permettent à nous, modernes, des exercices de réflexion rhétorique, politique et même anthropologique. Nous en parlons aujourd'hui avec Édouard Michel, normalien classiciste, passionné de politique antique et moderne, et avec son équipe formée de Sacha Cambier de Montravel, artiste graphique, et des professeurs Pascal Arnaud, spécialiste d'histoire romaine, et Monder Kilani, spécialiste d'anthropologie. Ensemble, ils nous ont proposé un dossier interdisciplinaire sur la vie d'Agricola de Tacite, dans le cadre des Humanités dans le texte, dossier déjà publié sur la plateforme Odysseum du ministère de l'Éducation nationale. Humanité dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Édouard Michel, vous êtes normalien, vous avez fait des études classiques et des études politiques, vous travaillez dans l'administration politique française et européenne, mais vous continuez à lire les classiques et même à les traduire pour en faire des scénarios graphiques. Comment est-ce qu'on concilie la culture des lettres classiques avec un emploi à plein temps dans l'administration ?
Eh bien, d'abord, je dois dire que j'ai pris une journée de vacances pour venir ici.
Merci.
Sinon, je ne pourrais pas vous parler. Mais en fait, je trouve que les deux se complètent plutôt bien. C'est parce que j'avais fait des études de lettres que je pense que j'avais des facilités pour écrire, pour les concours administratifs. Et à l'inverse, après avoir de longues journées de travail où on écrit des comptes rendus, des notes, c'est aussi un moyen de se ressourcer que de retrouver des textes qui ne sont pas liés forcément au monde d'aujourd'hui et pour y retrouver une nouvelle matière.
À la réflexion, ça fait plusieurs épisodes de podcast des Humanités dans le texte qu'on parle de Macrobe, d'Appien, aujourd'hui ce sera de Tacite. Tous ces lettrés sont à la fois des fonctionnaires de l'État romain et des intellectuels. D'une certaine façon, vous êtes dans leur continuité, dans leur sillage.
Alors, à une toute autre échelle, évidemment, vu les responsabilités tant de Tacite que d'Agricola. Mais c'est certain que dans l'Antiquité, l'activité littéraire, l'activité intellectuelle, c'était une activité de loisir et que ça n'était pas organisé de manière professionnelle, de manière statutaire, institutionnelle. Et c'était donc l'inverse, finalement, de ce qu'on constate aujourd'hui.
Vous disiez tout à l'heure, en off, quand on préparait l'émission, qu'il y avait l'osium et le négocium.
Exactement. C'est-à-dire que non seulement il y avait ce partage, mais l'activité première, en tout cas si on écoute l'étymologie, c'est l'otium. Ce qui a donné, mais c'est péjoratif chez nous, oiseux, une activité sans but déterminé.
En espagnol, ocio
oui.
N'est pas péjoratif, et c'est le loisir.
Ah, alors voilà, ce sont de meilleurs disciples du latin que nous ne le sommes en français. Et negotium, le négos, c'est ce qui empêche l'épanouissement de la personne dans son temps libre, dans son temps à soi. C'est ce temps qu'on sacrifie au service de la cité, c'est le negotium. Et on a redécouvert à partir du XXe siècle, avec la civilisation des loisirs, le temps libre. Tout à coup, la leçon des anciens, qui était destinée évidemment à une infime frontière frange de la population de l'Empire romain, hein, mais est devenu un message qui peut nous inspirer aujourd'hui à large échelle. Hein. On passe son temps à parler de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et c'est un thème auquel les anciens ont beaucoup, beaucoup réfléchi.
Alors, vous êtes plongé dans l'œuvre de Tacite, et vous avez même proposé une nouvelle traduction de la vie d'Agricola, que vous avez adaptée avec un dessinateur, Sacha Cambier de Montravel, qui va intervenir dans ce podcast. Et j'ai l'objet entre mes mains, il s'agit d'un livre, d'un beau livre, paru aux éditions Rue d'Ulm il y a 2 ans, en 2022, dans lequel d'ailleurs on peut apprécier, dès la quatrième de couverture, la majesté du style de Tacite, avec cette citation qui revient à plusieurs reprises et qui revient aussi dans une des vignettes illustrées par Sacha Cambier de Montravel. C'est celle-là. « Tout comme la parole, nous aurions volontiers perdu la mémoire elle-même si, non contents de nous taire, nous étions aussi capables d'oublier. » Alors, dans les humanités, dans le texte, le parti pris que nous prenons est de rentrer dans le vif du sujet en lisant les textes dans la langue de leur production. C'est difficile en réalité de savoir à quel moment la langue de production intervient. On pourrait se dire que c'est que le latin, mais cette nouvelle traduction que nous propose Édouard Michel, elle passe par l'anglais, puisqu'elle passe par le travail d'un certain Anthony Goodman,
oui,
qui a publié il y a 10 ans,
oui,
à peu près,
oui,
une nouvelle traduction des œuvres de Tacite.
Alors, non.
Un nouveau commentaire.
C'est ça qui est intéressant, c'est que le détour a été quand même fait par l'anglais et aussi par les autres langues modernes. Je suis allé chercher les traductions dans les autres langues modernes. Et mon ouvrage de base était bilingue, mais c'était un bilingue latin-anglais.
Mais je trouve que c'est un très bel exemple de fertilisation par l'érudition de la culture classique. Parce qu'on pourrait se dire que c'est seulement un travail de scribe ou de moine dans la poussière et l'obscurité des bibliothèques, ça n'intéresse personne. Non. Vous êtes un passionné de littérature classique et c'est le travail d'un érudit qui va vous donner envie de créer un objet qui est plus donc qu'un objet d'érudition, qu'un objet d'art, finalement. Et avec une nouvelle traduction qui, moi, me parle et qui parlera, j'imagine, à d'autres, avec un français d'une très belle facture qui peut être à même de toucher nos contemporains. Donc, je pense que c'est un très bel exemple de fertilisation par l'érudition de la culture populaire, on peut dire. Mmh. Espérons que,
oui,
ça devienne de la culture populaire. Entrons maintenant dans le texte et lisons un passage de cette œuvre que vous avez choisie pour goûter un peu l'écriture de Tacite. Il s'agit du chapitre 28 qui raconte une histoire à part, presque une anecdote, celle de Germains enrôlés dans l'armée romaine qui se sont révoltés, donc les Usipiens, pour ne pas les nommer, qui ont tué leurs supérieurs et se sont embarqués sur 3 bateaux qui vont bientôt dériver de l'Écosse vers le nord de la Germanie. Alors vous allez lire le texte latin, j'ai le privilège de lire votre traduction française.
Et Adem a estaté, cors usiporum, per Germanias conscripta, et in Britanniam transmissa, magnum ac memorabile facinus ausa est.
Le même été, une cohorte d'Usipiens qui avait été enrôlée dans les Germanies, puis transférée en Grande-Bretagne, hasarda une grande aventure digne de passer aux générations futures.
Occiso centurione ac militibus qui a tradendam disciplinam in mixti manipulis exemplum et rectores abebantur, tres libonicas ad actis peruim gubernatoribus ascendere.
Ils tuèrent leurs centurions, ainsi que les soldats incorporés à leurs unités, pour leur inculquer la discipline en servant de modèles et de guides. Puis ils montèrent à bord de 3 liburnes, en entraînant à chaque fois de force leurs pilotes.
Et uno remigi imperante, suspectis duobus eoque interfectis, non dum vulgato rumore ut miraculum praeweberantur.
L'un d'eux donnait ses ordres aux rameurs, tandis que les 2 autres, devenus suspects, furent tués. Alors que la nouvelle de leur équipée ne s'était pas encore répandue, ils passaient à l'horizon comme un mirage.
Mox, ad aquam ut atque utensilia raptum, ubi divertissent, cum plerisque Britannorum sua defensantium, proelio congressi, ac saepe victores, aliquando pulsi, eo ad extremum inopiae venere, ut infiemissimo suorum, mox sorte ductos, vescirentur.
Lorsqu'ils infléchissaient leur route pour s'emparer d'eau ou de ravitaillement, ils s'en prenaient à bon nombre de Britanniques qui défendaient leurs biens. Les Usipiens en sortaient souvent vainqueurs, mais étaient parfois repoussés à la mer. Ils connurent alors les tiraillements extrêmes de la faim, au point d'en venir à manger les plus faibles d'entre eux, puis d'autres tirés à la courte paille.
Atque ita, circum vecti Britanniam, amicis perinscitiam regendi navibus, propre donibus habiti, primum as suibis, mox a frisis, interceptis sunt.
Voilà dans quelles conditions ils firent le tour de la Grande-Bretagne. Faute de compétences en navigation, ils perdirent leur navire, puis furent pris pour des pirates. D'abord les Suèves en capturèrent certains, ensuite les Frisons.
Ac fuere quos, per commercia venum datos, et in nostra musque ripa mutatione et mentium adductos, indicium tanti casus illustravit.
Et il en fut qui, vendu comme esclave, à force de changer de propriétaire, parvint jusqu'à nos rives. Le récit de cette catastrophe jeta sur eux quelques lumières.
Je t'assure quelques lumières, c'est ainsi que j'ai traduit « Illustravit ». C'est un parallèle avec le tout début du texte de l'Agricola, « Clarorum erorum facta moresco et tradere ». Il va être question dans le texte des hommes illustres. « Claris », c'est l'idée étymologique de l'illustration, c'est-à-dire le fait d'être dans la lumière, de baigner dans la lumière. C'est le même champ sémantique pour « Illustravit », mais il y a sans doute, c'est le commentaire de Woodman qui le suggère, une manière de tracer un parallèle et de montrer que la petite notoriété dont les Usipiens vont peut-être bénéficier à cause de leur mutinerie n'a rien à voir avec la grande histoire, celle des vrais hommes illustres, celle d'Agricola.
Alors, est-ce que Tacite nous raconte là une histoire vraie ?
Oui, je pense que oui. Il n'en fait pas d'ailleurs autre chose qu'un fait divers. Il ne gonfle pas l'événement jusqu'à en faire un affrontement entre les civilisations comme l'Odyssée d'Homère. Et le fait que des Usipiens recrutés de force en Germanie et envoyés combattre des Calédoniens pour le compte de l'Empire romain aient eu envie de se mutiner et peut-être de retrouver un bateau pour rentrer chez eux, ça me semble plus que vraisemblable. Donc des épisodes de ce genre, il y a dû en avoir plus d'un. Et si l'histoire est entrée en circulation, on en a un petit écho chez le poète Martial aussi. Il n'y a aucune raison de contester son authenticité. Après, ce qu'on en fait du point de vue littéraire, c'est autre chose. Ici, c'est plutôt comme, c'est raconté comme une fable, un petit peu comme la chèvre de Monsieur Seguin. C'est-à-dire, c'est une mise en garde en fait que nous adresse Tacite. Ils ont voulu la liberté, ces Usipiens. Et bien, vous voyez, ils sont montés bien haut dans la montagne et ils ont été dévorés par le loup. Là, ils se devaient entre eux. Et donc, l'utilisation qui en est faite est très littéraire, mais l'effet à la base de cet épisode me semble très véridique et il n'y a aucune raison de douter de leur véracité. En tout cas, je ne le fais pas pour mon compte.
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Iseo, Iseo Santiano.
Naviguer en mer, ça ne s'improvise pas. Alors sur l'océan, encore moins. Comment les Usipiens naviguaient-ils ? Et d'abord, sur quelles embarcations ? C'est ce que nous allons voir maintenant avec quelqu'un qui a la particularité de naviguer aussi bien dans les textes des anciens que sur les flots de la Méditerranée, qu'il arpente avec son voilier et parfois même sur des navires de l'Antiquité. Il n'y a pas de hasard et c'est dans une salle à l'acoustique de cale de navire du département des sciences de l'Antiquité de l'École normale supérieure que nous allons rencontrer Pascal Arnaud. Pascal Arnaud, vous êtes professeur émérite d'histoire romaine à l'Université Lumière Lyon 2, membre senior honoraire de l'Institut universitaire de France, bien connu du monde universitaire pour vos travaux sur les routes de la navigation antique, sur les mers et les ports de la Méditerranée. Ce qui est intéressant, c'est que vous pratiquez les documents littéraires et épigraphiques antiques, mais également la navigation à voile. Vous êtes un marin dans l'âme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de naviguer sur des Liburnes, mais je suis sûr que malgré tout, vous aurez des choses à nous dire sur ces embarcations des barbares Usipiens.
La Liburne, c'est la petite unité de la flotte de guerre. C'est une unité à deux rangs de rames et c'est une unité qui sert essentiellement dans des missions d'éclaireurs, un peu comme les frégates modernes. Ce sont des bateaux réputés petits. À titre d'hypothèse, sachant que là encore, la palette a pu varier, on admet généralement 50 rameurs, c'est-à-dire 12 et 13 sur chaque rang, chaque côté superposé. Pour une cohorte, 500 hommes, on peut penser qu'ils ont dû avoir quelques pertes quand même. Allez, disons, une petite dizaine, 9 ou 10 Liburnes étaient suffisantes pour transporter tout le monde. La moitié, si à chaque fois une Liburne embarquait 50 passagers à bord. Donc voilà, c'est un petit bateau, et ce qu'on veut nous dire, c'est que c'est pas fait pour les grandes entreprises nautiques, c'est pas fait pour un tour de la Bretagne. Ces gens sont idiots, ce sont des barbares incultes. Ils ne prennent pas les bons bateaux et ils ne savent pas les utiliser.
D'accord, c'est ça le message en fait. Et est-ce qu'il est plausible qu'elles aient échoué? Et si oui, et même si non d'ailleurs, connaît-on d'autres exemples de naufrages dans l'Antiquité?
Alors, il y a deux versions différentes du texte. Aucune n'évoque de naufrage de ces embarcations. Elles auraient, selon une première version, fini en Germanie. Les Germains auraient capturé ce qui restait des équipages et auraient revendu les membres d'équipage mutinés comme esclaves. Selon un autre témoignage, ils seraient revenus stupidement au point de départ et se seraient fait cueillir. Alors, pour les naufrages, le thème du naufrage est très récurrent. Quand on parle de mer, on parle presque immédiatement de naufrage. Les traces réelles, on en connaît en réalité très peu en dehors des témoignages archéologiques. On était il y a 20 ans sur un corpus de 3000 épaves antiques. Il n'y a pas eu de comptage détaillé depuis, mais on doit se situer à vue de nez autour de 4500 aujourd'hui. C'est beaucoup. Plus on va vers les grandes profondeurs, plus on en trouve, et de mieux en mieux conservés. Les principaux récits sont l'un, je dirais, des monuments funéraires qui parfois illustrent le naufrage. On voit comme ça un bateau rompu sur des écueils et les trois femmes qui meurent en train de barboter autour du bateau en train de couler. Mais on a le récit d'un bateau de passagers parti d'Alexandrie à destination de Rome sur lequel un survivant était embarqué, et ce personnage, Flavius Joseph, a connu une destinée assez brillante sous l'empereur Vespasien et ses fils. Il nous raconte en gros l'histoire. C'est un naufrage structurel. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de récif. Le bateau se brise spontanément sur la houle. C'est donc un gros bateau. Il n'y a pas de doute, on a le nombre de passagers. 600 à bord.
600, c'est énorme.
80 survivants. La fin mérite d'être citée de mémoire. Nous avons nagé toute la nuit. Au lever du jour, nous vîmes passer un vaisseau. 80 parmi nous qui fûmes plus rapides que les autres furent recueillis à bord. C'est tout l'éloge funèbre des 520 restants.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre, rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Ô l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude.
On entend la voix de Léo Ferré chantant « La mémoire et la mer » comme une lointaine épitaphe pour ces 520 naufragés, compagnons de Flavius Joseph, disparus dans l'abîme, quelque part entre Alexandrie et Rome, il y a 2000 ans.
Reviens, fille verte des fjords, reviens, violon des violonades, dans le port, fanfare les corps pour le retour des camarades au parfum rare.
Mais revenons avec Pascal Arnaud qui tient la barre de nos échanges sur la navigation antique et sur cet épisode étrange des Usipiens que mentionne Tacite dans sa vie d'Agricola. Pascal Arnaud, que sait-on au juste de la navigation dans l'Atlantique à l'époque de Tacite, c'est-à-dire au 1er siècle après Jésus-Christ ?
La navigation de l'espace atlantique est extraordinairement ancienne. Les enquêtes les plus récentes sur le développement du mégalithisme atlantique permettent d'en fixer les émergences aux environs de 5000 avant Jésus-Christ. Le mégalithisme se serait diffusé avec les migrations atlantiques maritimes de communautés de chasseurs de cétacés, chasseurs de baleines, en particulier sur des bases archéologiques. La navigation sur l'Atlantique n'a pas attendu les Romains. César trouve des flottes très organisées, très structurées, des vénètes. Ils ont d'autres traditions de construction navale que le monde romain. Ça étonne beaucoup Jules César. Mais il y avait déjà une architecture navale très développée, de gros bateaux, avant la conquête romaine. Quant aux Phéniciens, ils avaient déjà rejoint le Maroc atlantique jusqu'à l'île de Mogador dès la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc l'Atlantique n'est pas nécessairement un monde inaccessible.
Et cette circumnavigation de la Grande-Bretagne, est-ce qu'elle n'aurait pas pu être faite avant ?
Disons que cette circumnavigation était inutile et stupide. L'idée qui fut agie du Nil était déjà largement acceptée. On avait déjà recueilli des témoignages sur cette zone. En revanche, aucun témoin crédible, ce qui est essentiel pour les anciens, ne l'avait jamais vérifié expérimentalement. Nous avons ici des incapables qui vont donner l'idée de le faire après eux, parce que si ces barbares absolus, incapables de pratique de la mer, ont réussi à le faire, après tout, on peut le faire.
Mais il n'est pas dit clairement qu'ils ont fait tout le tour de la Grande-Bretagne en revenant au point de départ.
Alors, ce n'est pas effectivement dit dans le premier récit de Tacite. Premier récit de Tacite, les faits arrivaient en Germanie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas si nuls que ça, au fond, ces barbares. Ils sont arrivés pas très loin de l'entrée de la Baltique. Dans la deuxième version, qui est peut-être de Tacite lui-même et qui nous est transmise par Dion Cassius, mais dans un autre ouvrage postérieur, Tacite aurait revu un peu sa copie. Et Dion Cassius s'est fait revenir au point de départ. Ils sont tellement stupides qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont fait la circumnavigation. Mais au fond, une circumnavigation n'apporte rien. Et depuis déjà très longtemps, on savait une chose fondamentale qui rend cette circumnavigation inutile. Cette circumnavigation démontre seulement qu'il n'y a que de l'eau au nord de l'île. Mais on le savait déjà, puisqu'on connaissait déjà, près de 40 ans plus tôt, l'existence des îles Orcades, au nord de la Bretagne, qui sont déjà documentées par les géographes.
C'est un titre de gloire, une circumnavigation.
Oui, c'est un titre de gloire, et c'est en ce sens qu'il faut le comprendre chez Domitien. Naviguer sur l'océan, c'était une question que s'était posée Alexandre le Grand. Et on lui avait dit, l'océan, ce n'est pas un lieu pour les hommes, même... Roi tout-puissant, tu devrais t'en abstenir. Domitien le fait.
C'est un petit peu comme ces drapeaux plantés au sommet des pics les plus escarpés au XIXe siècle ou dans les régions les plus reculées par ces explorateurs, régions qui souvent ont été habitées et apprivoisées par des peuples, par les Inuits, par les peuples de l'Himalaya ou par les peuples d'Amazonie selon les régions dans lesquelles on se trouve depuis des millénaires. Donc c'est un titre de gloire.
Oui, le titre de gloire est le titre que s'arroge le commanditaire de l'exploration. J'ai accru le capital de connaissance universelle. Je me comporte donc en philosophe absolu. Oui. Et l'océan étant depuis Homère ce qui limite l'action des hommes, quand on explore l'océan, on a brisé le carcan que les dieux avaient installé autour de la Terre. Pour beaucoup, dans la pensée commune, l'océan est le lieu des âmes.
Des âmes,
des élus.
Des défunts.
De certains élus parmi les défunts. Les îles fortunées.
Quel sens cela a, d'après vous, pour Tacite, d'utiliser cet artifice qui semble un peu grossier ?
Je dirais qu'il n'a jamais été très avare de ses procédés, et ce point ne lui était pas particulier. L'histoire est toujours écrite avec des arrière-pensées. L'une de celles de Tacite est d'assurer sa propre promotion. Avec cet épisode, Tacite gagne sur deux fronts. grâce à son beau-père, il se rachète une virginité politique très, très écornée sous Domitien. Et d'autre part, il annonce en quelque sorte son second projet éditorial de la même année, qui est la publication de l'ouvrage sur la Germanie. On a donc ici une introduction à l'ouvrage à venir, et on voit très bien comment Tacite a ajouté à la trame de la Germanie les Usipiens, qui n'y figuraient pas initialement, et qu'il a du mal à localiser précisément, par référence à cet ancien ouvrage. L'ouvrage de la Germanie permet au grand Tacite de vanter ses mérites d'ancien commandant militaire aux frontières de l'Empire en Germanie.
Merci Pascal Arnaud pour ces échanges passionnants sur la navigation antique qui donnent une toute autre mesure à cet épisode de la dérive des Usipiens. Merci à Édouard Michel, le coordinateur de ce podcast et de ce dossier, pour avoir traduit, déchiffré pour nous ce passage de la vie de Tacite, avec lequel nous n'en avons d'ailleurs pas fini. En effet, dans un deuxième épisode de ce podcast, nous irons à la rencontre de Sacha Cambier de Montravel, le dessinateur de la bande dessinée qui accompagne la nouvelle traduction de la vie d'Agricola proposée par Édouard Michel, et nous reviendrons sur la signification du cannibalisme avec l'anthropologue Monder Kilani. Parmi les différents extraits sonores qui ont servi à composer cet épisode, vous aurez peut-être reconnu l'introduction de Trimartolode, Trois matelots, la chanson traditionnelle bretonne, interprétée par Alan Stivell, un extrait de la bande originale du jeu vidéo Rome Total War de Jeff Van Dyck, Le cauchemar de César, un peu plus loin la chanson Santiano, interprétée par le chœur des Marins d'Iroise, et bien sûr le poème chanson écrit et interprété par Léo Ferré dans son album Amour Anarchie de 1970, La mémoire et la mer. Ce podcast vous a été présenté par Émile Gaillozo, responsabilité scientifique Ancadan, et nous nous quittons comme d'habitude avec les dédales de Carole Beffa.